ของโร
de 6 minutes.
Et ce soir, oh là là, ça pète dans tous les coins. En gros, ça va être convergence des luttes, grève par-ci, grève par-là, mouvement dans tous les sens. Et puis, il n'y a pas que le mouvement social, puisque...
On va parler. On aura une interview de la ZAD quand même avant d'avoir une. Avant de parler de violence policière au centre de rétention de Mélie-Lamelot.
D'émeutes à Toulouse.
De semaines de sursis pour des familles hébergées à la caserne Chabal à Lyon.
On parlera d'un petit communiqué de Migre Europe et puis on finira par un petit agenda, quoi.
On ira faire certainement un tour du côté de Roibon.
Ces dernières semaines, des initiatives d'action avec des grèves et manifestations ont été organisées dans plusieurs secteurs professionnels et territoires. L'intersyndicale appelle à une première étape dans le processus de convergence des luttes et c'est demain, manifestation à 13h30, place Jules Ferry, ça c'est à Lyon. Il faut savoir qu'il y a d'autres endroits comme par exemple à Toulouse où il y a plusieurs manifestations qui partent de plusieurs endroits et qui se rejoignent sur le trajet. C'est une sorte de symbolique de la convergence mise en scène, quoi. Et donc là, ce que je vous lis, c'est le communiqué de l'intersyndicat. Alors attention, c'est pas tous les syndicats qui font par exemple partie de la grève SNCF. On sait que la CFDT est contre l'idée de convergence des luttes, puisqu'elle permettrait peut-être de faire un petit peu trop peur au gouvernement ou au patronat. Mais en l'occurrence, c'est signé CGT, FSU, CNTSO, Solidaire, CNT, UNEF, UNL. Donc, agents de la fonction publique, salariés, cheminots, retraités, jeunes, une journée d'action, de grève et de manifestation est prévue pour demain. Et ça nous explique que le gouvernement, animé par la seule volonté de répondre aux intérêts individuels de quelques premiers de cordée et aux revendications du MNF, le gouvernement et la majorité parlementaire s'inscrivent dans... Alors, ce qui est appelé de manière, moi, je trouve, un petit peu maladroite dans ce communiqué de presse, c'est que le gouvernement s'inscrit dans une remise en cause profonde de notre modèle de société. Bon, il faut dire que nous, des fois, les remises en cause profondes de notre modèle de société, c'est pas... parfois, on peut trouver que c'est cool, mais effectivement, une remise en cause de cette manière-là, nous, on trouve pas vraiment que c'est cool. Salariés ou travailleurs dits autonomes, privés d'emploi, retraités, jeunes, sont mis en opposition pour ne surtout pas risquer de solliciter les moyens financiers existants ni répartir les richesses produites par le travail. Et l'intersyndicale propose donc à toutes et tous d'agir le 19 avril, donc demain, pour une alternative de progrès social autour de l'amélioration des salaires, des pensions, des minima sociaux sur la base d'un SMIC fortement revalorisé, du développement de l'emploi de qualité et de la réduction du temps de travail, de l'obtention de droits collectifs de haut niveau inscrits dans des conventions collectives ou des statuts, du développement d'une industrie de services publics qui répondent aux besoins des populations, d'un accès aux études supérieures sans sélection à l'entrée, d'un accès élargi à la formation professionnelle libérée de toute logique marchande. L'intersyndicale, ses militants, ses syndiqués sont à pied d'œuvre pour élever le rapport de force dont les travailleurs ont besoin pour la satisfaction de leurs revendications. Pour être plus fort, il faut être plus nombreux. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que les revendications portées sont, alors, et on va revenir dessus parce que ça part dans tous les sens, mais ne sont pas du tout des revendications défensives. C'est pas des revendications juste de défendre nos acquis. C'est bien des choses qui sont demandées pour progresser, pour aller dans le sens d'un droit du travail nettement plus favorable aux travailleurs. Et donc, à l'appel des organisations signataires, manifestation demain à 13h30, place Jules Ferry, c'est-à-dire devant la gare des Brantôts. Et le mouvement social, on va rentrer un petit peu dans le détail de quelques-unes de ses composantes. Alors pas du tout toutes, parce qu'on n'en finirait plus. Mais la liste des villes où une ou plusieurs universités est bloquée par des étudiants opposés au nouveau processus d'entrée dans l'enseignement secondaire est toujours aussi longue. C'est pas du tout sur le déclin comme on peut parfois commencer à entendre. Selon un décompte réalisé par le HuffPost, plus d'une quinzaine d'établissements sont soit occupés, soit en partie bloqués aujourd'hui. Alors aujourd'hui, par exemple, on a dans les établissements qui rentrent dans notre liste, on a Sciences Po Paris, où les étudiants ont pris position contre ce qu'ils appellent la dictature macronienne, un geste d'autant plus symbolique que Emmanuel Macron est passé par les bancs de cette école. Le bâtiment, et du coup dans les banderoles, il y a une banderole qui pend aux fenêtres de Sciences Po Paris, qui dit « Macron, ta fac est occupée, est bloquée peut-être ». Mais ta fac, quoi. Le bâtiment principal situé dans le 7e arrondissement de Paris a été fermé par mesure de sécurité et environ 70 étudiants occupent depuis hier soir le hall principal. À Montpellier, où l'université Paul Valéry est bloquée depuis mi-février, le tribunal administratif a ordonné aux occupants de libérer les lieux sans délai, faute de quoi le tribunal a autorisé le président de l'université à procéder d'office à leur expulsion. Ce qui veut dire qu'à Montpellier, on attend certainement les flics pour très bientôt. Et à Montpellier, attention, ça charcle. C'est-à-dire que depuis cette histoire de FAF qui sont rentrés pour évacuer la fac, il y a encore eu des histoires de manifestations d'étudiants dans la ville qui se sont fait sacrément taper par les flics.
Et sans que ça fasse gros complot, il y avait des fortes suspicions de à un moment de du fait que les FAF qui sont entrés dans la fac étaient aussi des flics professionnellement.
Selon le ministère, 4 universités sur environ 70 étaient toujours totalement bloquées. Alors là, attention, on ne parle pas des universités où il y a des AG, des universités où ça bouge, de je ne sais pas quoi, on parle de celles qui étaient juste complètement bloquées aujourd'hui. Et 11 autres sites étaient sérieusement perturbés. Donc une petite liste de villes, Brest, Rennes, Nantes, Angers, Tours, Rouen, Nancy, Dijon, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Bordeaux et plein de facs à Paris. Alors tiens, on n'a qu'à se faire par une petite liste des facs de Paris. Mais à Tolbiac, l'université est bloquée et occupée jusqu'au retrait de la loi ORE. Âgé des personnels qui a voté la grève depuis le lundi 9 avril. Paris 1, bloqué et occupé. Institut de géographie fermé administrativement depuis 2 semaines, par peur que les étudiants ne finissent par tenir une AG. La Sorbonne, occupation et expulsion le 12 avril, depuis elle est fermée administrativement. Paris 3, bloqué, occupé. Paris 4, bloqué, occupé. Paris 4, Malesherbes, une manif anti-blocage a provoqué la fermeture administrative de la fac. Paris 5, fermé administrativement après une tentative de blocage. Ça date du 12 avril. Paris 7, fermé administrativement après le déblocage par les flics, le 12 avril, c'est-à-dire jeudi dernier. Paris 8, bloqué et occupé. Nanterre, bloqué et occupé partiellement depuis le mardi 10 avril, par 800 personnes quand même. Entièrement bloqué le 16 avril. Blocage reconduit le 17 avril par une AG de 1500 personnes. AG des personnels qui a voté la grève à partir de mardi 10. Le HESS est bloqué et occupé en journée depuis le mardi 10. Sciences Po est donc bloqué depuis aujourd'hui.
Pas mal. Et on peut préciser que fermé administrativement, ça ne veut pas dire que les facs peuvent être occupées et fermées administrativement. Fermé administrativement, ça veut dire que les cours, les examens, tout ça n'ont pas lieu. Et on note qu'à Montpellier, je ne sais plus quelle fac exactement, mais le président de la fac voulait organiser comment on appelle ça ? Des interros, on n'appelle pas ça interro à la fac.
Ah, des examens.
Des examens, voilà, merci. En ligne, pour permettre aux étudiants de faire le truc. Et malencontreusement, la salle des serveurs de l'université de Montpellier a été sabotée afin que le blocage soit réel, même en ligne.
Dans les autres perspectives syndicales un peu rock'n'roll, on a aujourd'hui la CGT Énergie. La CGT Énergie qui appelle à la grève à partir de demain et qui annonce tout un petit paquet de petites actions qu'elle compte mener. Alors la CGT, c'est la première organisation syndicale dans l'énergie et elle appelle à la grève donc à partir de demain et jusqu'au 28 juin, c'est-à-dire qu'elle se calque sur le calendrier des cheminots. Comme l'explique Sébastien Monesplier, qui est le secrétaire général de la CGT Mines Énergie, le syndicat organisera demain une première journée nationale de mobilisation interprofessionnelle pour notamment demander l'organisation. Alors attention, c'est aussi intéressant de voir ce qui revendique la CGT Énergie. L'organisation d'un nouveau service public de l'électricité et du gaz qui répondent à l'intérêt général, c'est-à-dire, alors pour le coup, eux, ils remettent carrément en cause notre modèle de société, hein, puisque ce qu'ils demandent, c'est parce qu'au lieu d'aller dans le sens des privatisations, là, eux, ils demandent en gros de recréer un vrai service public qui vaille le coup. Il faut, dit-il, commencer par faire le bilan de la déréglementation énergétique qui, depuis quasiment 20 ans, n'a apporté que des effets dévastateurs, tant pour les salariés que pour les usagers. Le syndicat exige aussi la fin de la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz et un statut de l'énergicien pour l'ensemble des salariés de ce secteur. On peut dire que cette grève-là, que comme je disais tout à l'heure pour les revendications de la manif de demain, de la manif convergente, que cette grève-là est loin d'être uniquement défensive. Et c'est comme une sorte de belle leçon de voir une branche de la CGT qui, alors pour le coup, qui défend pas du tout une sorte de statu quo, mais qui porte vraiment des revendications claires et nettes de changement. Dès ce mercredi, nous dit toujours Sébastien Ménesplier, nous prévoyons des basculements d'heures pleines en heures creuses dans les principales grandes villes. C'est-à-dire que vous allez payer l'électricité, aux heures où vous êtes censé la payer cher, et ben vous allez la payer au même tarif que les moments où vous êtes censé la payer pas cher. Donc alors eux, pour le coup, il faut un truc qui ne peut carrément être que très très populaire auprès des consommateurs et des clients de l'énergie. Il explique aussi que la mobilisation sera aussi visible par le rétablissement du gaz et de l'électricité à des familles qui sont victimes de coupures pour impayés.
Voilà, classe.
La bonne vieille histoire des Robins des Bois de l'électricité, là. Dans les jours qui viennent, des coupures ciblées, par contre, viseront des entreprises, alors en particulier, précisément, c'est-à-dire pas n'importe quelle entreprise, mais des entreprises qui licencient et des entreprises qui criminalisent les actions syndicales.
Pas mal.
Mais carrément, un syndicat qui prend ses responsabilités de syndicat dans une perspective de lutte des classes, quoi. Et puis, dit-il, pour rouler les trains, ils ont besoin d'énergie. Donc, on a aussi des petites actions à mener dans ce sens.
Ah.
Et toujours d'après ce secrétaire général de la CGT Mines Énergie, il parle aussi d'empêcher les nouveaux compteurs Linky de communiquer les informations de consommation aux fournisseurs. Et il ajoute que des baisses de charges sont aussi prévues dans les centrales de production d'électricité. Alors voilà, ça c'était la CGT Mines Énergie. Alors après, on va pas parler de tout le monde, mais quand même, des gens qui ont des raisons de se retrouver à la manif de demain, parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont en grève, ils sont en mouvement, ils sont en lutte. J'ai fait une liste qui, elle aussi, est pas du tout exhaustive, hein, mais si on passe du temps sur Internet, on peut l'allonger encore carrément. Mais donc, on a les TCLA. Demain, c'est ça. Demain, les TCL seront en grève. Si pour les Parisiens, la RATP est en grève. Et après, j'ai pas vraiment regardé ville par ville, mais a priori, il y a un paquet de transports urbains qui seront en grève demain. Les cheminots, on le sait, les fonctionnaires, bien sûr, les personnels soignants dans les hostos et dans les EHPAD, les étudiants, on en a parlé, on a aussi Air France, on a aussi les profs, c'est cette espèce d'attitude du gouvernement et globalement de cette majorité ultra arrogante est en train de nous rendre un sacré service dans le sens d'une amélioration sociale en réveillant un peu tout le monde.
Et on va s'écouter une petite musique, le temps de joindre la ZAD. Voici de retour et vous êtes bien sur Radio Canu. Et si tout se passe bien et que le direct fonctionne comme on le souhaite, nous avons une personne en direct de la ZAD. Est-ce que tu nous entends ?
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Ah, salut, super, ça marche. Alors, vas-y, est-ce que... alors, du coup, t'es à la ZAD. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance de ces derniers jours actuels et qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Ouais, bien sûr, ouais, carrément. Bah, là, plutôt, c'est un peu en descente d'intensité, du coup, par rapport à la semaine dernière. Là, je suis à l'Auberge des Cutelon, Limabou, plutôt. On se retrouve avec des potes et on va boire des coups. Ils peuvent se raconter les dernières nouvelles, essayer de savoir un peu capter quelle allait être la stratégie de la préfecture, du gouvernement, essayer de démêler un peu tout ça, de voir un peu où est-ce qu'on en est dans l'énergie de chacun chacune. Et oui, plutôt en redescente par rapport à la semaine dernière où ça a été très très intense, très conflictuel et où là, du coup, plutôt parce que la présence de la police limite à sécuriser les espaces qui viennent du coup déblayer les décombres des maisons qu'ils ont rasées la semaine dernière. Du coup, ça reste très contraignant et très pénible, mais quand même beaucoup moins éprouvant puisqu'on est quand même moins souvent confronté à un bain de nuages lacrymogènes un quart d'heure après son réveil.
Après, on entend quand même parler à droite et à gauche de barricades qui sont construites, démontées, reconstruites, redémontées.
Ouais. Ouais, mais ça c'est le jeu du coup, c'est que comme ils reviennent comme tous les jours, c'est un peu de pas leur faciliter trop la tâche non plus. Du coup, effectivement, il y a plein de groupes qui spontanément font et refont les barricades à mesure que les flics les démontent et une fois qu'ils sont partis quoi.
Alors c'est vrai que tu disais de pas leur faciliter la tâche. En tout cas, ce qu'on perçoit dans les médias en lisant plusieurs là, c'est que ça a l'air, en tout cas, stratégique, a l'air de marcher plutôt pas mal parce que il commence à y avoir quand même plusieurs témoignages du côté des gendarmes qui disent que là ils commencent à en avoir sacrément ras le cul de d'être par là-bas. Donc la stratégie d'épuisement a l'air de bien fonctionner de leur côté aussi quoi.
Ouais, tant mieux, c'est sûr qu'ils ont l'air assez usés de manger des sandwichs donuts tous les jours et on n'est pas désolé pour eux quoi, mais
tout à fait.
Mais tant mieux que ce soit usant et éreintant et qu'ils aient le stress et que leurs familles soient en panique parce qu'effectivement c'est l'enjeu quoi, ça joue sur tout un tas de terrains différents et que parce que militairement juste effectivement on serait perdant quoi. Et du coup essayer de trouver effectivement tout un tas d'autres trucs pour les dissuader de recommencer la semaine prochaine, c'est quand même l'enjeu.
C'est ça, parce que par exemple on commence à parler d'opération César 2, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que c'est encore et une fois pour encore un échec pour cette opération. Vous avez ce sentiment là, c'est un peu tôt pour dire ça peut-être.
Ouais, c'est ça, c'est que à la fois c'est un peu tôt, mais à la fois dès le début de l'opération on s'est dit là autant on a niqué César et on va se faire Jupiter quoi. vraiment Macron, enfin, on s'est dit il y a un vrai enjeu, il essaie de passer en force sur tout un tas de domaines au niveau de ces différentes réformes par rapport au code du travail, par rapport tout le remue-ménage qui se passe en ce moment chez les cheminots dans la fonction publique et qui a un enjeu un peu plus large que juste sur la ZAD effectivement à le mettre en échec et je sais plus où j'allais.
Oui, non, du coup on disait que c'était qu'on avait un peu l'impression que c'était encore un échec cette opération.
C'est ça. Et que ouais, assez tôt en fait à partir du lundi où on a vraiment accusé le coup d'essayer de ça parce qu'avant ça on savait pas du tout quelle ampleur allait avoir leur opération. Et à partir du moment où on a vu qu'ils n'hésitaient pas non plus à s'attaquer à des lieux avec des projets agricoles et en reniant un peu ce qu'ils avaient pu dire ou à ce à quoi on avait pu s'attendre.
Oui.
Ça, c'est sûr qu'on a pu. C'était beau. Enfin, tout de suite, le conflit était beaucoup plus clair sur comment on allait pouvoir le mener et comment on allait se lancer là-dedans. Et on peut remercier tous les gens qui ont déferlé en nombre sur les ZAD la semaine dernière pour effectivement mettre en partie en échec l'opération, parce qu'effectivement, avec tout le monde qu'il y a eu, avec toute l'intensité qu'ont eu effectivement les moments d'affrontement, la tension qu'il y a pu y avoir même en dehors de cela, et ben c'est sûr que ça, enfin très tôt dans la semaine, à partir du mardi, j'avais l'impression effectivement qu'on reprenait de la force et qu'on reprenait en puissance et que juste on allait les avoir quoi.
D'accord. Et alors, de loin, on peut se demander pourquoi est-ce que au moment où c'est ça, où entre autres tout ce qui a été promis a l'air d'être complètement bafoué de la part du gouvernement et des choses comme ça. Pourquoi, comment vous avez fait le choix de, enfin, je dis un vous, mais je sais même pas exactement ce que désigne ce vous, mais vous avez fait le choix de retourner voir la préfète et recommencer des négociations à un moment où on se demande aussi où vous en êtes, où vous vous en sentez du rapport de force, par exemple.
Ouais, mais c'est sûr que ce vous n'est pas du tout univoque sur la ZAD et sur au sein des occupants et après au sein d'autres composantes, c'est peut-être plus clair sur effectivement qu'est-ce qu'on a apporté dans des négociations que je pense qu'il y a plein de gens qui sur la enfin des occupantes de la ZAD qui ont peur de ce que ça pourrait entraîner une forme de légalisation ou des négociations ce que ça veut dire en termes de compromis avec l'État, de plus d'a priori, on va dire, politique, un peu idéologique, et aussi de par rapport à ce qui s'est élaboré toutes les quand même sur les 8-10 derniers mois, un peu à partir du moment où on a commencé à sentir effectivement que l'aéroport allait être abandonné, de l'enjeu qu'on a commencé à penser à savoir, à essayer de formuler genre qu'est-ce qu'on voudrait pour sur la ZAD une fois le projet abandonné. D'essayer de penser, réfléchir à des statuts, des entités juridiques, essayer de trouver des formes qui sont des compromis, quoi, qui sont effectivement des statuts juridiques peut-être en partie existants, essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait inventer, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait effectivement servir de paravent pour quel statut juridique légal pourrait servir de paravent pour tout un tas d'autres activités hors normes.
Et ça, c'est
une question qu'on a commencé à formuler assez tôt. Et que là, les négociations, du coup, elles étaient un peu dans cette logique-là, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait obtenir ou attendre de la préfecture, et que eux, clairement, leur objectif n'était pas. Était vraiment d'empêcher l'avènement de structures collectives qui puissent prendre en compte l'ensemble du territoire de la ZAD et c'est pour ça que le dialogue a été, enfin le dialogue, je dis dialogue, mais même si effectivement c'était les moments de négociation qu'il y a eu entre la délégation intercomposante et la préfecture ont été plus une sorte de présentation de genre des lignes de la préfecture qui disaient ben voilà, nous on ne laissera pas passer de structure collective, on veut que vous remplissiez des formulaires, des déclarations de...
Des formulaires simplifiés même, hein, s'il vous plaît.
Pardon ?
Même des formulaires simplifiés. Hein, parce que...
Ouais, même les formulaires simplifiés, effectivement, mais qui sont individuels et par parcelle, et par projet, et après ce qu'il pourrait, on pourrait essayer de le réfléchir effectivement toujours en termes de paravent administratif ou quoi, mais ce qui effectivement casserait certaines dynamiques qui sont présentes et puis aussi les interdépendances entre les activités, quoi, parce qu'effectivement c'est difficile de séparer la télésérigraphie, l'organisation de concerts, de tout un tas d'autres trucs, et que de penser des cadres légaux pour tout ça, c'est forcément limitant par rapport à ce qu'on peut vivre. Et du coup, de retourner aux négociations dans un cadre de rapport de force imposé par effectivement les expulsions de la semaine dernière, c'est sûr que c'était pas du tout univoque et c'était assez conflictuel entre nous, mais à la fois il y avait une espèce de besoin de négocier une forme de trêve dans les expulsions, essayer de voir de sauver ce à quoi on tient, ce qu'on a construit pendant toutes ces années, et qui même effectivement si on est prêt à le mettre en jeu pour même si on est prêt à le mettre en jeu, il y a quand même on a quand même gros à perdre aussi. Et du coup la réouverture des négociations, c'était plus l'idée d'essayer de voir est-ce que les lignes de la préfecture ont vraiment bougé, est-ce qu'ils sont prêts effectivement à entendre les arguments de structures collectives, et est-ce que c'est une vraie volonté de reprendre une forme de dialogue cette fois qu'ils sont un peu plus ou eux sont un peu plus prêts à se mettre en jeu ou à lâcher des trucs. Et apparemment c'est pas le cas. Du coup c'est à voir de ce que ça a donné dans la fin de la semaine et ce que ça a laissé présager pour la semaine prochaine.
Quand tu dis a priori c'est pas le cas, c'est que vous avez déjà eu un peu des mini-retours, de brefs retours sur cette délégation ou pas du tout?
Ouais, très bref, quoi. Les camarades ont dit à la presse en sortant du rendez-vous avec la préfecture.
D'accord. Du coup, c'est
et que... aussi ce que dit la préfecture avant même le début du rendez-vous.
Ah ouais. Elle a annoncé la couleur, quoi.
Ça a annoncé la couleur, ouais. C'est-à-dire qu'elle va dire que tu vas rester ferme et que tu ne transigerais pas sur certains trucs. C'est sûr que ça laisse pas présager beaucoup de...
Et du coup, ça veut dire que là, vous êtes dans une perspective... Enfin, bon, peut-être que c'est un peu tôt pour te poser la question, mais je tente toujours et puis on verra bien comment tu réponds. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes dans une perspective de continuer cette espèce de lutte de guérilla un peu quotidienne là, depuis une dizaine de jours? Ou est-ce que vous allez essayer de, je sais pas, d'avoir d'autres idées?
Là, c'est sûr qu'on essaie d'avoir d'autres idées, parce que jouer purement sur le terrain militaire, ça va pas... Déjà, de ce que ça peut entraîner en termes d'isolement par rapport à tout le reste, une partie du mouvement, ou de et aussi d'essayer de trouver d'autres formes, parce qu'effectivement, si on ne joue que sur ce terrain-là, on pense pas le gagner, quoi. Du coup, c'est essayer de trouver d'autres formes. Mais que de toute façon, oui, c'est sûr que si en cas de reprise des hostilités ou de l'offensive de la part de l'État, on sera prêt à se défendre. À se défendre de la même manière qu'on l'a fait la semaine dernière, et à penser effectivement à d'autres formes d'action encore.
Et ça, et on vous fait quand même plutôt confiance pour trouver plein de formes d'action qui quand même, on peut le dire, marchent la plupart du temps.
Disons qu'elles ont fait leur preuve.
C'est ça.
Et d'ailleurs, nous pouvons remercier les camarades lyonnais et lyonnaises qui ont écrit des très jolis papiers invitant des rassemblements, et qu'on a pu voir que des potes ont ramené jusqu'ici. Ils ont fait bien plaisir.
Et est-ce que pour l'instant vous continuez à appeler les gens à vous rejoindre massivement, ou c'est plus tellement le...
Eh ben, plutôt on appelle à rester vigilant et à plutôt à revenir à partir du week-end prochain, quoi, selon ce qui se sera joué dans la semaine avec la préfecture et
le gouvernement. Parce que peut-être, alors dis-moi si je me trompe, mais peut-être ça vaut le coup de préciser que j'imagine que vous êtes ultra content et contente, et c'est super quand il y a plein de monde qui vient pour soutenir, mais j'imagine que pour vous, en tout cas pour les gens qui sont sur place, c'est aussi une fatigue, parce que j'imagine que c'est aussi de la gestion. Est-ce que tu confirmes ce que je dis? Ce que je veux dire, c'est que
franchement, on peut que se réjouir des arrivées massives qu'il y a pu y avoir la semaine dernière et le week-end dernier. Ça a été complètement fou et assez, et vraiment heureux, quoi, et chaleureux de retrouvailles et de confiance qu'on peut avoir effectivement avec des potes qu'on peut croiser à différents moments ailleurs, dans d'autres villes, sur d'autres luttes, et c'était vraiment chouette. Et que plutôt effectivement on sent aussi que l'AZAD, dans ce que ça a pu drainer comme énergie, il y a aussi une forme d'habitude ou d'organisation qui est assez facile de reconvoquer. Là, ça a été vraiment très simple. Je dis un espèce de truc d'ensemble, quoi, général. Mais que l'organisation a été hyper bien rodée, toutes les personnes qui sont venues faire les cantines, qui sont venues, la manière dont on a organisé le couchage de manière un peu spontanée, anarchique et la dernière minute, ça s'est quand même assez bien fait. Qu'il y a quand même une habitude de gros événements, qui fait que genre l'organisation, même au dernier moment, même à l'arrache, ça a fait que je pense que tous les ans on a pu avoir une espèce d'accueil minimal assez chouette, quoi, pour les gens qui arrivaient ou qui connaissaient pas forcément, ou qui venaient pour aider dans un moment vraiment dur, et à la fois qui permettre effectivement de lutter et d'opposer à la police effectivement une résistance active.
C'est ça, accueil qui marche quand même plutôt bien, parce que les gens sont quand même prêts à faire vraiment des bornes et des bornes pour venir soutenir cet endroit, et du coup je pense qu'il y a le côté où politiquement c'est un truc qui est là, et que des millions de gens trouvent méga classe, et en plus ça veut dire que les gens se sentent d'arriver dans cet endroit là et que ça va marcher, quoi. C'est à dire que c'est pas forcément des gens qui connaissent hyper bien l'endroit, qui viennent, et du coup ça c'est quand même un truc qui a réussi à être fait là-bas, qui est quand même méga classe, quoi.
Ouais, qui est super chouette, là, justement, dans des lieux qui ont fait de l'accueil inconditionnel, quoi. Pas que de leurs potes ou des gens qui connaissent ou quoi, mais qui est vraiment d'avoir des espaces qui puissent accueillir tous les gens qui débarquent, même qui sont jamais venus, même qui savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire de résister physiquement à une offensive policière, et que ça a vraiment ça a produit vraiment tout un tas de rencontres vraiment chouettes. Et aussi, ça nous a vraiment permis aussi de tenir, du coup, en échec le gouvernement sur cette opération-là, quoi.
Complètement. Est-ce que par exemple t'as une parce que ça a beaucoup communiqué à la fin de quand ils ont dit là l'opération s'arrête mais du coup l'occupation policière reste. Est-ce que t'as une idée, ils parlaient de 40 lieux expulsés. En même temps des fois on avait l'impression qu'ils pouvaient dans ces 40 lieux ils pouvaient compter une cabane qui abritait juste un chiotte. Enfin est-ce que t'as une idée réellement de est-ce que tu pourrais nous décrire ce qui a réellement été détruit, toi quelle proportion ça a sur la ZAD. Il y a bien sûr des lieux emblématiques et des constructions qu'on a pu voir super chouettes qui ont été démolies, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu faire un espèce de mini bilan concrètement
C'est assez dur, je me suis pas formulé trop comme ça de essayer de faire un truc statistique de nombre de lieux ou de mais que oui, c'est sûr que là sur les 29 lieux dont ils annoncent la démolition, en fait, il y en a les trois quarts qui sont des cabanes individuelles qui pouvaient être des chambres quoi, qui étaient pas forcément des lieux de vie collectif ou et plutôt ils ont compté un peu sans ils n'ont pas fait trop de distinction sur c'était plus essayer de faire un truc de chiffres, essayer de montrer que sur tout ce qu'ils avaient référencé, ils avaient expulsé la moitié, mais qui est complètement foireux, parce qu'en vrai non, ils n'ont pas du tout expulsé la moitié de la ZAD. Là c'est sûr que dans la communication, dans ce qu'ils ont pu chercher à montrer, c'était de montrer que l'expulsion de la ZAD suivait son cours, qu'il bientôt il n'y aurait plus de lieu, d'essayer de montrer juste un peu les destructions et de montrer comment ils tenaient le terrain, alors qu'en fait ça s'est concentré sur une très petite portion de territoire. Vraiment restreinte géographiquement dans le centre de la ZAD, autour de la route des Chicanes, enfin de l'ex-route des Chicanes, et que tout d'ailleurs, la vie continuait et les lieux continuaient à être occupés et ont pas du tout. Il y a une partie de barricades qui ont pu être levées parce que les gens, au bout d'une semaine, se sont dit qu'ils n'avaient pas vu l'ombre d'un flic, et du coup, ils ne prenaient plus la menace au sérieux, quoi.
Ok.
Et du coup, non, c'est sûr que ça continue à. La ZAD continue de foisonner. Vous continuez à être les bienvenus, que ce soit dans des périodes de speed ou plus calme, pour venir nous rendre visite.
Ok.
Bah oui, très bien. Eh bah, écoute, en tout cas, on vous souhaite énormément de courage, de force et de victoire. Et puis, on continue à se tenir au courant de très près.
Oui, super, on continuera à vous tenir informés, et puis c'est sûr qu'il faut continuer à faire vivre les craintes du président qui disait qu'un des objectifs cachés était bien évidemment de propager le désordre.
et du coup, on s'en occupe, ça s'en occupe, et ça s'en occupe un peu partout aussi en dehors de la ZAD, au point qu'on se demande comment ils vont avoir assez de flics pour tout le monde.
Bon courage à vous, et à bientôt.
Bah merci beaucoup à toi et une petite dédicace à Radio Klaxon tout de même. Allez, salut.
Salut.
Et on va continuer à parler de police, mais cette fois-ci on va aller du côté de la région parisienne et plus précisément au centre de rétention de Mélie-Namelot, qui est le plus grand centre de rétention de France, le plus grand si l'on compte Mélie-Namelot 1 et Mélie-Namelot 2. D'ailleurs, c'est s'il y a cette distinction, on le rappelle, c'est qu'à l'époque, c'était il y a quelques temps déjà, c'était un des moyens de contourner la taille maximum d'un centre de rétention prévu par la loi taille, qui est, je ne sais pas, et on s'en fout, parce que de toute façon, ils trouvent bien les moyens de la contourner, c'est leur propre loi. Bref, c'est donc dans cette prison que le journal Street Press s'est procuré 27 plaintes visant des violences concernant des violences policières, violences commises seulement sur l'année 2017. Alors sur ces 27, 13 concernent des agissements de flics à l'intérieur du centre de rétention, 7 concernent des violences commises lors des interpellations, et les 7 autres ont eu lieu soit durant des expulsions, soit durant des transferts. Alors Street Press, ils ont procuré ces 27 plaintes, ont passé un petit coup de fil au procureur et lui ont simplement demandé s'il existait d'autres plaintes dont ils ont eu connaissance, et le procureur a répondu que non. Enfin, en tout cas qu'il n'était pas tout à fait en mesure de pouvoir répondre, mais quand même, il précise qu'aucune de ces plaintes n'a abouti à des condamnations. Ah, on s'en étonnerait presque. Mais les témoignages s'accumulent. Il y a Adrien qui raconte que, je cite, 4 policiers, 2 hommes et 2 femmes sont entrés. Ils ont commencé à me coller de force contre la porte. Ils m'ont pris à la gorge, m'ont frappé, puis les policiers m'ont emmené hors de la salle de visite. L'un d'eux m'a mis des coups de poing à la tête et à l'abdomen et m'a cogné la tête contre le mur. Une des policières qui avait les cheveux teintés de rouge m'a craché dessus. Les policiers le menacent. S'il porte plainte, il ira en prison. Ça se passait du côté de la machine à café. Adrien allait chercher, bref, il était en visite avec sa famille, il allait chercher de chocolat à ses enfants et c'est à ce moment que l'altercation a eu lieu. Toujours du côté de la machine à café, vous allez le voir, la machine à café, ça a l'air d'être un lieu de violence policière assez importante, ça reviendra assez souvent. Daoud veut se prendre un café, deux flics sont campés devant et lui répondent no coffee. Là, il proteste, le ton monte, un flic sort son taser, le tase, Daoud tombe KO, il est conduit aux urgences. À sa sortie, il n'est pas sorti de l'auberge, il est ramené au centre de rétention pieds et poings liés avec un casque sur la tête et il est ainsi placé en cellule d'isolement. Alors, on pourrait se dire que tout ça est un peu grotesque ou que c'est pure invention, de grosses exagérations. Sauf que ça concerne tout de même une dizaine de cas déclarés et qu'à chaque fois, il s'agit du même genre de violence. Alors, on aurait du mal à croire à un mensonge collectif tout de même. Dans les PV, pour procès-verbaux, ça est grosso modo la même genre de scène de violence ou d'humiliation. Amina, elle, déclare qu'elle allait chercher son petit déjeuner quand deux policiers, un homme et une femme, sont arrivés. Elle dit, je cite, « Sans un mot, la femme m'a fait une clé de bras très douloureuse et m'a attrapé par le cou alors que je me débattais. » La policière lui explique alors que l'heure du petit déjeuner est passée. Pour Saïd, un policier, je cite, « m'a étranglé au niveau de la porte d'entrée près de la machine à café. » Les flics ont développé un peu des stratégies, donc là j'arrête de citer, ont développé des stratégies pour agir hors caméra. L'Agda raconte qu'il a été emmené en salle de visite, là où il n'y a pas de caméra, et qu'il s'est fait tabasser à cet endroit-là. D'autres racontent que les violences ont eu lieu en cellule d'isolement, et le nom d'un flic revient tout de même à deux reprises dans les plaintes et à plusieurs reprises dans les couloirs du centre. C'est celui de Mohamed, dit Momo. Une plainte de Bakar le concerne. Alors qu'il s'embrouillait dans le centre, Momo le sépare, emmène Bakar en salle d'isolement et le menace. « Moi, je peux te taper ici, je peux te laisser ici. Personne ne va rien voir. Il n'y a pas de caméra ni personne. » Avant que son collègue ne lui donne une gifle. Mario décrit une scène du même ordre avec le même flic, mais également devant. Enfin, cette scène se passe devant 5 à 6 collègues à lui. Mario est frappé à plusieurs reprises. Les flics finissent par lui lâcher. T'avais qu'à pas venir en France. Alors, même si le nom de ce flic ressort, il ne s'agit pas du tout de dire que c'est l'agissement d'un flic qui a l'air un peu plus cinglé que les autres. Là, comme on le voit quand même très bien, à chaque fois, soit pour l'Agda, ça s'est passé avec un autre de ses collègues, et là, l'action s'est passée devant 5 à 6 autres de ses collègues. Donc voilà, il n'y a pas que ce flic, lui, a l'air d'être un peu plus violent que les autres, mais ça a l'air d'être quand même un comportement assez général dans le centre. D'autres plaintes concernent aussi des violences commises durant les expulsions. Vlad raconte, alors qu'il est dans l'avion, pieds et poings liés, il résiste à son expulsion. Logique. Un policier, je cite, me tenait les pieds, tandis qu'un autre en uniforme me hurlait dessus, fils de pute, retourne dans ton pays, ou alors ferme ta bouche, sale chien, tout en me saisissant la gorge et en me donnant des coups de poing sur le visage et derrière le crâne. Face à la violence de l'expulsion, enfin du coup de la tentative d'expulsion, le commandant de bord les fait descendre, ce qui a annulé son expulsion. Alors oui, on rappelle aux auditeurs et auditrices que le commandant de bord a tout pouvoir sur un avion, et du coup il y a un gros enjeu de la part des personnes qui sont expulsées de perturber au maximum avant que le décollage ait lieu, pour que le commandant de bord intervienne et dire non, là c'est pas possible, la sécurité dans l'avion n'a pas lieu, les flics et le retenu, vous dégagez C'est pas possible comme ça. Et voilà. Et les flics ne peuvent pas du tout s'opposer à ça. C'est un peu le dernier rempart des personnes quand elles se font expulser. D'où en général, effectivement, une violence assez forte dans ces moments, parce que c'est vraiment la dernière chance des personnes pour pas décoller, quoi. De son côté, Ahmed raconte que les policiers l'avertissent, je cite, il me battrait si j'adressais la parole aux autres passagers. Donc voilà, effectivement, donc l'enjeu est bien sûr des deux côtés, coup de poing, coup de coude, coup de genou et tentative d'étranglement n'ont pas tardé pour l'empêcher de parler. Donc, qu'il a effectivement essayé d'alpaguer les autres passagers. Là encore, le commandant de bord met fin à son calvaire et les flics de lui dire « Tu vas voir, on va t'envoyer en Afghanistan et tu vas pleurer. » Évidemment, aucune plainte n'a abouti, hein, la plupart étant classées sans suite, mais le parquet justifie ce classement sans suite de la manière suivante, écoutez bien, sans suite dans la mesure où il est démontré qu'en réalité, les violences alléguées sont commises dans le cadre d'une intervention justifiée. Ces violences sont donc avérées et approuvées par le parquet qui les justifie par le simple fait que des retenus puissent hausser le ton face à des flics et s'opposer à leur propre expulsion, ce qui est à peu près le minimum que n'importe qui essaierait de faire, et n'y voit même pas une once d'abus de pouvoir. Alors on imagine assez aisément que Méline Hamelot ne fait pas exception dans les centres de rétention de France et que des situations comme ça, il doit en passer à peu près tous les jours. Voilà, et Street Press avait aussi fait, il y a aussi une vidéo sur leur site que vous pouvez trouver d'un retenu qui avait fait une vidéo à l'intérieur de Méline Hamelot pour montrer à quel point cet endroit était un taudis et en fait pour démontrer à quel point alors il parlait pas tant de violence policière là-dedans, c'était pas trop le sujet, c'était montrer en fait que bah déjà les gens étaient dans des conditions, l'endroit était une poubelle géante et en fait le principal truc c'est que les gens sont enfermés pendant 45 jours et les gens n'ont rien et absolument rien, je veux dire il y a même pas le... Enfin, c'est pas pour comparer avec les prisons, mais il n'y a même pas le minimum qu'il peut y avoir dans une prison d'organisation, un peu d'activité. Alors, avec les aléas qu'on connaît, hein, les détenus n'ont pas forcément accès ou quoi. Là-bas, il n'y a rien. Les gens se font chier pendant 40. Enfin, je veux dire, si t'es enfermé pendant 45 jours, t'as rien. À peine un ballon, à peine un baby-foot suivant les centres de rétention, mais il n'y a rien, rien, rien là-bas, quoi. Donc voilà. Donc, c'est un peu l'ambiance dans les centres de rétention en France, et du coup, voilà, il y a des fois des témoignages qui sortent pour nous éclairer un peu de ce qui se passe à l'intérieur.
À Toulouse, après trois nuits maintenant de heurts dans le quartier du Mirail. Alors, quand on dit le quartier du Mirail, en fait, c'est un quartier, mais il y a d'autres quartiers à l'intérieur de ce quartier. Donc, dans les quartiers de Bellefontaine et de Rennerie, au Mirail, à Toulouse, et ben voilà, on en est à trois nuits d'affrontement avec la police. Au total, 23 personnes ont été interpellées depuis dimanche. 5 personnes avaient été interpellées dans la nuit, ont été interpellées la nuit dernière. À un moment, la ville et la préfecture avaient envisagé d'établir un couvre-feu dans le périmètre où se sont déroulés les affrontements. Pour l'instant, ils ont renoncé, même si la situation reste fragile. Nous avons noté une amélioration par rapport aux nuits précédentes, annonce quelqu'un de la mairie. Mais bon, ceci dit, selon ce qui se passe ce soir, si ça se trouve, ils reviendront à cette idée de couvre-feu. Alors bon, voilà, on ne va pas épiloguer longtemps sur le couvre-feu, la gestion coloniale des quartiers, blablabla. Il y a une sorte d'évidence qui saute aux yeux. Alors pourquoi est-ce que ça pète au Mirail? On dirait qu'il y a deux raisons qui se renforcent l'une l'autre. D'un côté, il y a une histoire d'un détenu originaire du quartier qui est mort à la prison de Seyss. Il est mort, on l'a su samedi. Alors, il paraît qu'il se serait suicidé. Bon, c'est ce que c'est les suicides en prison, hein. Des fois, les suicides, c'est le genre, les personnes se seraient elles-mêmes rouées de coups avant, par exemple, de se pendre à un barreau où elles ont les pieds qui touchent par terre, voire les genoux qui touchent par terre. En tout cas, il y a certains suicides dans les prisons qui ont l'air hautement suspects. On a du mal à imaginer que quelqu'un ait vraiment pu se faire ça tout seul. Des fois aussi, les détenus, enfin, c'est même pas rare, a priori, se suicident réellement. On sait qu'en prison, on suicide, enfin, ou en tout cas, les gens meurent de, les morts classées comme suicides, il y en a quand même, en pourcentage de population, il y en a 7 fois plus qu'à l'extérieur. Et donc, il y en a une partie non négligeable où les gens se suicident réellement. Tellement les conditions de vie à l'intérieur sont insupportables, ou tellement ils vont mal, mais en soi, la réponse prison est aussi une manière de les enfoncer encore plus. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on peut partir du principe que la prison et ses personnels ont joué un rôle dans la mort des personnes. Donc là, voilà, a priori, les gens au Mirail étaient vénères parce qu'un de leurs potes a été retrouvé pendu dans sa cellule. En plus de cette histoire-là, le dimanche, une femme qui portait un voile intégral, donc un niqab, un truc qui est complètement... alors, une femme qui, visiblement, se moquait des lois de la République qui interdit ça... qui avait visiblement autant de respect pour ces lois que nous on peut en avoir, cette femme a été interpellée, et quand on dit interpellée, il y a une petite vidéo qui a été faite, qui est un peu tournée, où bon, on voit quand même que les flics la foutent par terre, et enfin, ça charcle un peu, ils s'asseyent sur elle, tout ça. Une nana, attention, bon, on parle pas d'une adolescente hyper vénère ou quoi, une nana qui a 37 ans, une mère de famille, quoi. En tout cas, comme l'interpellation a été agitée, même si on ne sait pas exactement comment ça a commencé, mais ce qui est évident, c'est ce qui se passe, mais comme de manière logique, c'est qu'elle sera jugée au mois de mai pour rébellion, outrage, menace sur personne de dépositaire de l'autorité publique. Bon, ça, c'est ces deux trucs-là, l'un plus l'autre, ça a quand même abouti à ça. Et donc, les gens ont commencé à se battre avec les flics dès la soirée de dimanche soir. Dans la nuit de lundi à mardi, 18 personnes, dont 6 mineurs, avaient été interpellées lors des heures, alors dans le Mirail en général. Voilà, un quartier où il y a 40 000 habitants, parmi... non, mais le reste, c'est pas intéressant. Voilà, les personnes devraient paraître en comparution immédiate. Alors, il y a dû y en avoir deux aujourd'hui, et les autres, ça sera demain et après-demain.
Ah, tu me prends de court pour la petite musique. Ah, c'est bon. Ah.
On voit ce que c'est le collectif Jamais Sans Toi. C'est des gens en particulier autour des écoles lyonnaises qui se rendent compte à des moments que certains élèves dorment dans la rue ou dans des bagnoles ou quoi, et qui s'organisent pour, bon, d'une part les héberger, mais d'autre part quand même mettre la pression sur la préfecture pour faire en sorte que les pouvoirs publics respectent la loi qu'ils ont, qui est leur loi théoriquement, et qui dit que toute personne qui demande un hébergement y a droit, peut rester dans cet hébergement autant qu'elle le veut, en tout cas jusqu'à ce qu'on lui propose une solution digne, etc., etc., loi qui n'est donc jamais respectée. En tout cas, ces gens-là, et RESF et Agir Migrants, ont pas mal mis la pression cet hiver, et toujours est-il qu'il y a un certain nombre de familles qui sont hébergées dans une caserne à Saint-Priest, la fameuse caserne Chabal. Et donc on compte 59 familles, donc ça fait effectivement un peu de monde, et tout ça dans le cadre d'un dispositif hivernal. Et donc théoriquement, dispositif hivernal, pareil, légalement ça veut rien dire, c'est qu'une fois qu'ils sont hébergés, la loi interdit de les remettre dehors. La pratique, c'est qu'on les remet dehors quand même. Et donc là, la direction départementale de la cohésion sociale, sous l'autorité du préfet, a décidé que 39 de ces familles allaient devoir dégager. 39 sur 59. Alors, a priori, ils ont fait un tri sur la base des critères suivants, semble-t-il. La régularité du titre de séjour. Donc, en gros, si les gens ont un titre de séjour, ils ont plus de chances de rester que s'ils n'en ont pas. S'ils ont des enfants de moins de 1 an, ils ont aussi un peu plus de chances de pouvoir rester. Des femmes enceintes, pareil. Ou des personnes très malades. Les gens qui ont un titre de séjour qui n'en ont pas, ou qui en ont un qui arrive vers la fin. Qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de femmes enceintes, et chez qui personne n'est malade, ceux-là, tu retournes dans la rue. Alors, bien sûr, ils ont annoncé ça aux familles, un peu comme du jour au lendemain, elles allaient devoir dégager. Et puis à la mi-journée, le même jour où ils ont annoncé ça, pour essayer que les gens dégagent vraiment, des flics sont entrés à l'intérieur de la caserne, conformément aux dispositions de la très fameuse circulaire Colomb, pour vérifier les titres de séjour. Alors bien sûr, Colomb avait dit que ça serait jamais les flics, ça serait des fonctionnaires qui seraient pas des flics, etc., etc. Bon, là, en l'occurrence, tiens, bizarrement, c'était des flics.
Il leur faut jamais longtemps, quand même, pour moi.
Il leur faut jamais longtemps, quand ils ont voté une loi, pour en faire un usage encore pire que ce qu'ils ont voté. Enfin, bref. Et du coup, bien sûr, l'effet voulu a été en partie atteint. Les familles ont paniqué. Il y en a plein qui se sont barrés. Illico presto. Les pompiers sont quand même intervenus dans la suite de la journée 6 fois pour prendre en charge des personnes victimes de malaise. En gros, l'effet panique a quand même bien marché. Du coup, les collectifs Jamais Sans Toi, Agir Migrants et RESF et aussi le Secours Populaire ont déboulé, ont essayé de calmer la situation, de garder les gens, et puis ils ont directement organisé une manif, pareil, du jour au lendemain, jusqu'à ce que la préfecture décide que, suite à la manif, en tout cas ça a été décidé juste après la manif, que en fait c'est bon, on allait leur laisser un sursis d'une semaine. Alors un sursis d'une semaine, on voit bien que c'est pas grand chose, ça peut éventuellement être le temps de se mobiliser pour obtenir plus et pour obtenir que les gens, d'une manière ou d'une autre, finissent par avoir un réel hébergement, voire un réel logement.
Et retour sur des histoires de frontières, et là c'est Migro Europe qui nous informe mais qui communique sur l'Espagne et le Maroc qui doivent respecter les droits des enfants migrants et tout un tas d'autres droits, hein. Mais là ce communiqué cible plus particulièrement les enfants. S'il précise, ces derniers mois, le nombre de personnes migrants et migrantes et ou demandeuses d'asile tend à s'accélérer au territoire européen à travers la dénommée frontière sud, entre frontières qui est donc entre le Maroc et l'Espagne, hein. Ceuta et Melilla, qui sont deux enclaves espagnoles sur le territoire marocain. Et donc ce nombre de personnes a nettement augmenté, en cause la fermeture d'autres routes en Grèce et en Italie et la non-délivrance de visas pour accéder au territoire européen ont provoqué en 2017 la multiplication par 3 du nombre d'arrivées en bateau sur les côtes espagnoles. Multiplication qui a provoqué la mort de 249 personnes. Depuis le début de l'année, on en est à plus de 510 personnes qui sont mortes en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe, dont 140 qui tentaient de rejoindre l'Espagne. Parmi ces exilés, il y a un certain nombre d'enfants qui migrent seuls et se retrouvent en situation d'errance à Ceuta et Melilla une fois qu'ils ont réussi à passer cette frontière, avec des administrations publiques qui se refusent à assumer leurs obligations en matière de protection sociale à l'enfance. On rappelle que effectivement tout mineur qui arrive en France et en Europe doit être pris en charge de manière plus importante qu'un majeur. Cette situation s'est illustrée de façon tragique la semaine du 2 avril avec la mort de deux mineurs, l'un à Ceuta, l'autre à Beni Ansar, au Maroc, à la frontière avec Melilla. Dans les deux cas, selon des témoins, ils auraient été intentionnellement renversés par des camions. La militarisation croissante des ports de Ceuta et Melilla, avec l'installation de nouveaux murs barbelés tranchants et matériel de surveillance pour empêcher la traversée de ces jeunes exilés, accentue leur mise en danger, nous précise Migro Europe. Loin de se décourager, ces enfants prennent davantage de risques pour embarquer sur des ferries à destination de la péninsule espagnole. Voilà, ça c'est à peu près à chaque fois. Enfin, c'est le truc qu'on répète tout le temps, mais à chaque fois qu'il y a un durcissement au contrôle des frontières ou une militarisation des frontières, en fait, ça n'empêche pas les gens de venir, ça fait juste qu'ils prennent beaucoup plus de risques et ça fait donc qu'il y a beaucoup plus de morts. Entre 2015 et 2017, 3 mineurs ont perdu la vie dans le port de Melilla, à Ceuta et Melilla. La violence policière contre les mineurs isolés, majoritairement marocains, est régulièrement documentée, ainsi que les violences à caractère raciste émanant de civils. Côté marocain, à Beni Ansar et Nador, les jeunes sont pourchassés par la police, arrêtés et éloignés à la frontière. Migro Europe et ses organisations dénoncent ces situations et alertent sur ce qui se passe de ces deux côtés de la frontière et rappellent aux deux pays signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant leurs obligations internationales en matière de protection de l'enfance. Voilà, je m'arrête là. Vous retrouverez l'intégralité du communiqué sur le site Migro Europe. Voilà, un peu pour les enjeux qui se passent à nos portes.
Et allez, avant de laisser la place à l'émission Idées Noires qui nous suit, on va juste faire un minuscule agenda. Donc en commençant par rappeler demain le rendez-vous pour la manifestation Convergence des luttes, c'est bien à 13h30 devant la gare des Brotteaux. Et puis, si vous trouvez que Notre-Dame-des-Landes est trop loin, si vous n'avez pas forcément envie d'aller dans des endroits où il y a, où vous risquez de vous prendre un flashball ou une lacrymo ou quoi, mais si malgré tout vous êtes curieux de voir à quoi ressemble une ZAD, même en modèle un petit peu réduit, et ben c'est ce qui vous tend les bras, c'est d'aller au rendez-vous à Roibon, à la ZAD de Roibon, les gens qui luttent contre la construction d'un Center Parks, Roibon qui est quand même pas si loin que ça de chez nous. Et donc les 28 et 29 avril, suite à la grande tournée Center Parks ni ici ni ailleurs, qui a été organisée par des gens de là-bas, ils rentrent à la maison, et pour fêter leur retour à la maison, eh ben, il y a deux jours de balade, théâtre, concert, jeu forain, cantine, pizza. C'est donc le week-end du 28 et 29 avril, c'est ça, avec quand même pas mal de théâtre et pas mal de concerts.
Mais si vous avez quand même envie de vous rendre à la ZAD, vous avez bien entendu notre ami qui nous a parlé tout à l'heure. Et l'accueil est bon, chaleureux
et organisé malgré la désorganisation globale.
Voilà, donc n'hésitez pas à y faire un tour, même si vous n'y êtes jamais allé. Tout le monde est les bienvenus. Et hop, désolé des deux minutes de retard, on laisse la place à Idée Noire.
Et à la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés.